Yvan, ce matin, on reçoit Cilia Cassel. Cilia, c'est une chanteuse classique soprano. Elle vient de jouer tout récemment dans un opéra,
Ah
d'ailleurs.
oui.
Oui, pas n'importe quoi, Hansel et Gretel à Trois-Rivières. Elle est toujours étudiante. Elle est étudiante au Conservatoire de musique de Montréal et elle est aussi non-voyante de naissance. Bonjour, Cilia.
Bonjour.
Ça va bien ce matin? Oui, ça
Ça
va.
va et vous?
Est-ce que...
Permettez-moi seulement de corriger. En fait, l'opéra a été fait à Montréal, mais c'est avec l'opéra de Trois-Rivières.
Ah bon, non, non, c'est important de le préciser. C'est récent quand même, hein, que vous avez fait cet opéra?
Oui, c'était vraiment fun. J'étais dans le rôle d'un marchand de sable et d'une fée de rosée. Donc, j'endormais les enfants et je les réveillais ensuite.
C'était votre premier rôle à l'opéra.
C'était mon premier rôle à l'opéra à l'extérieur du cadre scolaire.
À l'extérieur du cadre scolaire. Parce qu'il faut dire que j'ai parlé du conservatoire de musique, mais auparavant, vous avez aussi fait des études collégiales en chant classique.
Tout à fait, au cégep de Saint-Laurent.
Oui, puis vous avez obtenu un DEC, n'est-ce pas?
Exactement.
Oui. Alors, on vous connaît sans vous connaître parce que c'est pas d'hier que vous fréquentez les médias, la télévision, la scène. Et je fais référence ici à un concours qui s'appelait La Voix Junior, qui a eu lieu
Oui.
en 2017 et vous étiez arrivé en demi-finale.
Exactement.
Oui, je me rappelle qu'à l'époque, on avait dit de vous que vous aviez ému le Québec tout entier, que
Oh,
vous aviez une voix extraordinaire et que vous étiez non-voyante. Est-ce que le fait d'ajouter cet élément-là vous dérangeait dans la présentation qu'on faisait de vous à cette époque?
personnellement, pas vraiment, mais bon, à cette époque-là, j'étais quand même assez contente et même encore aujourd'hui, je me dis si... Je veux dire, les émotions, les sentiments sont légitimes. Alors si, je veux dire, si j'émeux des personnes, j'en suis heureuse. Mais juste préciser aussi que je fais, tu sais, je vis ma vie, je fais au jour le jour. Le fait d'être, d'avoir une cécité, c'est pas un choix. Et donc, avant tout, je suis une personne, je suis une étudiante, je suis une chanteuse, et puis je fais mes activités comme je peux et tout à fait normalement, donc le plus normalement du monde en fait, si je puis dire. Donc, je ne suis ni une héroïne ni l'inverse. Je suis une personne comme les autres et je n'ai qu'une cécité et je dois enfin je dois m'adapter avec ça et aussi l'environnement également. Donc voilà.
Alors en fait, vous avez tracé une ligne jeune, je crois. Hein? Je pense que vous avez commencé à chanter très, très jeune.
Oui.
Oui. Et vos parents bien, vous ont encouragé certainement.
Exactement.
Oui, ils vous ont soutenu dans tout ça. Et la voix junior, c'est arrivé. Vous aviez quel âge? Est-ce qu'on a le droit de vous poser cette question? Avec votre
Il
voix
n'y a
si
vraiment pas
jeune,
de
je pense que
souci.
vous allez nous répondre. Yvan voulait vous la poser.
Oh.
En fait, il me l'a demandé. J'ai dit, je ne sais pas. Alors, je vais le faire pour lui au cas où il serait un petit peu gêné. Allez-y. Quel âge aviez-vous, Célia, en
Il n'y a vraiment
2017?
pas de souci. J'avais 14 ans.
Vous aviez 14 ans. Alors, voilà, on sait
Exactement.
maintenant votre âge. Je pense qu'Yvan veut dédire ce que je viens de dire, ou en tout cas, il veut rectifier le
Non, non, mais
tir.
je veux poser une question sérieuse quand même. Puis je ne sais pas si vous l'aviez sur votre feuille de questions. Mais Célia, comment on fait pour apprendre des partitions quand on ne les voit pas?
Alors, ça fait vraiment plaisir de répondre à cette question-là, parce que je crois que c'est vraiment important d'être sensibilisé là-dessus. Moi, je fonctionne avec le braille musical.
Le braille
Donc,
musical.
oui, donc le braille musical a été aussi inventé par Louis Braille, parce qu'il était également musicien et il enseignait aussi la musique à des personnes, je crois même voyantes également. Donc, Merci Louis Braille d'ailleurs.
Oui, sûrement.
Donc oui, je fonctionne avec le Braille musical. Par contre, aujourd'hui, il y a des logiciels comme Lime ou bien Sibelius qu'on peut aussi utiliser. Moi, personnellement, j'utilise Lime parce que je suis également brailliste. Donc, par exemple, chaque symbole correspond à une note, c'est à la valeur aussi de la note également. Par exemple, donc c'est assez pratique, mais je pourrais jamais faire de lecture à vue avec ça. Mais par exemple, si je fais du rythme ou si je fais du solfège, il faudrait peut-être par exemple un tempo précis, par exemple, pour que je puisse attraper, parce que chaque information ne vient pas en même temps, contrairement aux personnes voyantes qui voient une partition et qui
voient les notes et le texte en même temps.
Ouais, c'est ça, exactement, en globalité, comme ça. Donc c'est donc ils peuvent faire de la lecture à vue, même des doubles croches à une vitesse assez effrénée, ça peut être possible aussi. Sauf que moi, l'information, comme dès que le doigt atteint un signe, l'information, il y a énormément d'informations juste pour un signe, donc ça vient après l'autre dans mon cerveau, puis ça fait comme...
Oui, je comprends.
Est-ce que ce travail supplémentaire pour absorber finalement toute la théorie musicale et tout ça, est-ce que ça représente un obstacle, vous pensez, dans l'ascension de votre carrière?
Je peux pas dire que c'est un obstacle, parce que j'imagine que je suis rendue jusque-là, jusqu'à présent, donc je me dis que non. Mais effectivement, oui, c'est... en toute franchise, oui, c'est un travail supplémentaire. C'est quelque chose de supplémentaire et ça peut être parfois extrêmement épuisant parce que quand tu fais un travail par exemple d'analyse d'harmonie et que ça te prend normalement peut-être je sais pas 1 heure, 2 heures, ça peut me prendre 4 heures, tu sais, par exemple sur le logiciel ou peu importe si je dois écrire ou il y a énormément information qui vient un après l'autre, puis parfois le cerveau est en train de travailler à 1000 à l'heure, donc oui, effectivement, c'est épuisant. C'est épuisant, non seulement pour le solfège, mais aussi pour l'écriture, finalement.
Mais votre passion fait que vous acceptez d'une certaine manière ce travail supplémentaire.
Effectivement, c'est... Je veux dire, moi, la musique, c'est ma vocation. Le chant classique, c'est ma vocation. Et d'une certaine manière, je peux pas abandonner ça parce que c'est comme mon premier rêve, en fait.
Ouais, ouais. Et vous allez le porter jusqu'où, Célia, ce rêve-là? Quand vous vous projetez un peu dans l'avenir, qu'est-ce que vous voyez?
C'est difficile de se projeter, mais en même temps, c'est sûr que ce que j'aimerais, c'est humblement, hein, bien entendu, ça serait de faire des tournées, de faire des concerts.
Cantatrice classique, je m'excuse de vous interrompre, mais c'est le mot que vous ne voulez pas dire.
Cantatrice classique, oui, effectivement.
Bon, voilà, c'est dit. C'est dit.
Digitaliste, concertiste.
Ben, on vous souhaite de continuer. Vous avez vécu, par exemple, des expériences que maintenant certains chanteurs classiques se permettent, c'est-à-dire de chanter soit du populaire ou avec des chanteurs populaires. Et ici, je fais référence à quelque chose que j'ai trouvé vraiment génial à l'écoute. C'est une pièce que vous avez faite avec Martin Deschamps. Martin Deschamps, qui est un rocker, vraiment, récemment, là, en fait, il y a à peu près 1 an. Et comment vous avez trouvé ça, cette expérience, finalement? C'était vraiment 2 mondes, là, qui s'unissaient.
En tout cas, c'était absolument formidable. Honnêtement, c'était génial. Je ferai ça. Je ferai ça, quoi.
Vous seriez le genre de chanteuse un peu comme Marc Hervieux qui plonge à deux mains parfois dans la musique populaire.
En fait, c'est ça. Donc, tant que les deux personnes soient vraiment confortables et tant que, je veux dire, tant que les deux personnes soient épanouies, que leur voix soit épanouie, qu'ils se sentent épanouis, c'est parfait. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti lorsqu'on a chanté l'hymne à l'amour d'Édith Piaf avec Martin Deschamps. C'était un véritable moment de complicité. De complicité vocale comme de complicité d'âme. Et c'était épanouissant, c'était enrichissant. Je veux dire, je recommencerai ça, mais tout de suite, quoi.
Tout de suite, donc, on lance un appel à Martin Deschamps ou à d'autres qui veulent chanter avec Cilia Kacel. Elle est prête, elle attend vos propositions. Cilia, on peut pas se quitter avant qu'on parle de sport, parce que je sais que vous vous êtes investie quand même dans le sport. Vous faisiez du judo. Je parle au passé, parce que je crois pas me tromper, vous n'en faites plus.
Oui, pour l'instant. Effectivement, J'ai fait du judo. D'ailleurs, j'ai entendu l'entrevue de Aitel, c'est absolument magnifique.
Oui, Aitel faisait du judo avec vous. Aitel, c'est celui qu'on a reçu.
On a rencontré il y a deux semaines.
Oui, il y a deux semaines.
C'est un de mes amis les plus proches. Alors, bon, j'envoie un bisou. Et donc, voilà. Donc, oui, effectivement, j'ai fait du judo, et je me suis rendu compte en fait que c'était peut-être plus un sport récréatif pour moi plutôt qu'un engagement absolument plus profond finalement. Mm-hmm, mais j'adorais ça, c'est absolument magnifique. Je recommencerai dans le sens que si je trouve le temps, si je trouve l'énergie et tout, je retournerai faire quelques tours et si bien entendu Mohamed serait d'accord, je ferai quelques tours et puis ça me manque en fait de simplement bouger et tout. Là, il y a énormément de choses en tête, donc je me suis dit que pour faire du judo de façon régulière, je ne crois pas me sentir prête. Et d'ailleurs, je lève mon chapeau à Aitel parce que il y a un ministre coincé.
Mais vous n'avez pas renoncé pour autant à autre chose, hein? C'est ce que vous m'aviez dit. Vous avez peut-être des petits projets.
Ouais, en fait, niveau sport, je crois que je songerais à faire autre chose, à essayer déjà peut-être l'escrime parce que, en tout cas, je suis passionnée de médiéval. Et de médiéval fantasy, donc j'aurais aimé essayer ça, ou également l'équitation un petit peu plus, donc une initiation un peu plus poussée, parce que je me suis découvert un amour des chevaux. Pour les rares fois où ce que j'ai eu l'occasion de faire des tours, et donc j'aimerais beaucoup essayer. Le problème, c'est que il faudrait trouver des cours de groupe où ce qui pourrait m'accueillir. Mm-hmm. Donc, encore une fois, c'est l'environnement.
Oui, c'est ça qui peut être plus difficile. Ouais,
c'est ça,
ouais.
Exactement. Mais je veux dire, il n'y a aucune raison d'abandonner là-dessus parce que, bon, il y a des champions, des championnes d'équitation qui sont non-voyants et qui font du saut d'obstacle. Alors, il n'y a pas d'argument.
Oui, c'est ça, il n'y a pas d'argument. S'il y a avant qu'on se quitte, parce que le temps file, Yvan, mon collègue, aurait une question pour vous.
En fait, c'est plus un souhait. Je sais que Aitel, il vise participer aux Jeux olympiques de Los Angeles dans 4 ans. Alors, moi, je pourrais vous souhaiter d'avoir un récital à Los Angeles lors des Jeux olympiques dans 4 ans aussi.
Merci beaucoup.
C'est un beau souhait, hein?
Oui.
Bon.
Avec plaisir.
Alors, Cilia, on va vous suivre, puis on va voir si tranquillement, pas vite, vous vous destinez vers la Californie. Vous avez 4 ans pour vous y rendre quand même. Et on vous remercie beaucoup. Ça a été un très, très beau moment de radio. Et à une prochaine, Cilia.
À une prochaine, merci beaucoup.